politique.
Je n'ai pas fait cette réflexion-là. Je vais la faire dans les prochaines semaines, mais je ferme la porte à rien. On peut pas faire... Oui, faites-vous-en pas. Oui, je ferme la porte à rien, mais... Il se peut aussi qu'il y a d'autres choses qui se passent d'ici Noël. Le téléphone sonne beaucoup aujourd'hui.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Alors, c'était bien entendu l'ex-ministre libéral Pierre Moreau. En fait, il est encore ministre jusqu'à la constitution du nouveau conseil, mais il a été défait dans son comté de Châteauguay. Et donc, on le voyait tous, évidemment, candidat à la chefferie du Parti libéral. Mais une fois que tu es battu comme député, c'est plus compliqué, sauf que vous l'avez entendu. Il n'exclut rien. Et Paul Journet, éditorialiste à la presse, a quelques réflexions sur le sujet. Bonjour, Paul.
Bonjour.
Carl Bélanger, consultant en communication, stratège politique, lui aussi aura quelques réflexions sur le sujet. Bonjour, Carl.
Bonjour.
Paul?
Ben, tout d'abord, il dit que le téléphone sonne. Je me demande qui appelle. Est-ce qu'il parlait? Est-ce qu'il parlait de gens qui sont pas la filière politique, qui sont intéressés à voir Pierre Moreau comme employé, ou est-ce qu'il parle de gens?
Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai compris.
Parce qu'il est un peu tôt pour commencer à avoir les appels de...
Non, mais il a dit qu'il y a autre chose qui pourrait arriver aussi d'ici décembre. J'ai compris un changement d'emploi, là.
Puis c'est tout à fait normal que lui-même ne le sache pas, mais on voit qu'il y a quand même un petit hamster qui tourne dans sa tête au sujet de la course à la direction, là. Puis c'est pas tout à fait une surprise, hein. Il faut quand même revenir en arrière, se souvenir d'où vient Pierre Moreau. Il était chef de cabinet sous le gouvernement Charest. Ensuite, il est devenu député et ministre, mais vraiment ministre à la fin du règne de Jean Charest. Il avait été ministre à la réforme des institutions démocratiques. Puis, on l'avait envoyé en transport, un peu en catastrophe, parce que ça s'était très, très, très mal passé avec sa mamade. Et on cherchait quelqu'un de fiable. Et on est allé chercher ce politicien qui n'était pas jeune, mais plus ou moins inexpérimenté. Il n'avait pas été ministre de beaucoup de choses, mais on avait estimé qu'il était très fiable. Et il l'a été.
Oui.
Il était très bon.
Oui.
Il s'était lancé à la course à la direction après la défaite des libéraux de Jean Charest. Et on avait l'impression que c'était le candidat du positionnement. T'sais, souvent, dans une course à la direction, il y a des gens qui se présentent puis ils ne sont pas tout à fait certains de gagner. Mais pour eux, une défaite, ça peut être une victoire s'ils réussissent à arriver en deuxième place parce qu'on a l'impression qu'ils jouent le long jeu puis qu'ils positionnent leur pion pour la suite des choses, peut-être une future course à la direction. Mais là, il y a quand même beaucoup d'eau qui a coulé sur les ponts.
Alors, il a fini, puis, effectivement,
il a fini
deuxième.
C'est ça, devant Raymond Bachand, derrière Philippe Couillard, bien sûr.
C'est ce qui faisait que...
Ça, c'était en 2013.
Beaucoup le voyaient comme le dauphin après Couillard. Il disait, après Couillard, ça va être le tour à Moreau.
Exactement. Mais là, on se demande si 5 ans plus tard, il était trop tôt en 2013. Est-ce qu'il est trop tard en 2018? Parce qu'il est quand même associé à l'ère Charest.
Et à l'ère Couillard, nécessairement aussi.
Ouais. Puis il y a quelque chose qui lui avait fait mal lorsque, tu te souviens, quand Guy Ouellet avait été arrêté, Guy Ouellet, député libéral, arrêté par l'UPAC, sans accusation. Et il y a plusieurs parlementaires qui s'en insurgeaient. Et le président de l'Assemblée nationale, Jacques Chagnon, avait lancé un message à l'UPAC en disant que l'on accuse ou que l'on s'excuse. Et Pierre Moreau était le seul qui avait une voix un peu dissonante là-dedans.
En fait, sur une motion pour laquelle avait voté tout le caucus libéral, y compris son premier ministre, il avait décidé de s'abstenir.
Oui.
Et ça avait été vu comme un acte de dissidence. Et certains avaient vu là-dedans aussi un positionnement de leadership.
Oui, c'est une façon de le voir. Une autre, c'est que Pierre Moreau est un libre penseur et puis il a le courage de ses idées, il a de la colonne. Il y a deux façons de le voir. Mais pour les libéraux, s'il se lance, c'est plus difficile, évidemment, puisqu'il n'est plus député, puisqu'il a perdu, mais c'est pas impossible. C'est une candidature d'envergure et c'est le genre de personne qui peut provoquer des débats intéressants parce qu'il a de l'expérience et parce qu'il est très, très articulé et très éloquent.
Absolument. Très
efficace. Moi, je suis content que le téléphone sonne pour M. Moreau parce que j'espère qu'il sonne beaucoup et qu'il y aura d'autres offres. C'est quelqu'un de qualité, d'après moi.
Oui.
Cependant, je suis assez d'accord avec Paul que la fenêtre s'est peut-être refermée. Écoute, il a 60 ans, il est pas jeune, mais il n'est pas trop vieux, mais s'il ne participe pas à cette course-ci, est-ce que le prochain cycle sera disponible pour lui? Alors, c'est peut-être maintenant ou jamais. Le problème, c'est que pour lui, la situation politique, il n'a pas gagné son propre comté. Alors, il faut convaincre les militants que non seulement il peut gagner son comté, mais il peut en gagner 30 de plus. pas facile à vendre quand tu viens de perdre dans une élection comme ça.
Puis M. Couillard avait dit qu'il souhaitait que le parti se renouvelle. Je ne veux pas y lire trop de choses. Là, évidemment, il ne disait pas qu'il ne fallait pas que le prochain chef soit quelqu'un qui est âgé de 50 ans et plus ou de 60 ans et plus. Mais quand même, on sent ce désir-là chez certains militants libéraux que le parti se renouvelle de deux façons. Un, que ce ne soit pas quelqu'un qui est associé à l'ère Charest ou peut-être même à l'ère Couillard, ou du moins au début du gouvernement Couillard. Et deux, que ce soit quelqu'un qui vient de la nouvelle génération. Quand tu regardes les chefs politiques de la dernière campagne provinciale, par rapport à ceux de la prochaine campagne fédérale, tu vois une grosse différence. Les chefs au fédéral, c'est tous des gens de la nouvelle génération montante, fin trentaine, quarantaine, alors qu'au provincial, on était dans la cinquantaine, soixantaine, et on voit que les plus jeunes forment une part croissante de l'électorat. Il y avait, je pense, le tiers des électeurs dans la dernière campagne provinciale qui étaient chez les 35 ans et moins.
Très bien.
Et si tu veux établir un contraste avec François Legault, faut que tu prennes le virage jeunesse absolument.
Bon. Ce qui nous amène évidemment à Sébastien Proulx, qui pourrait être candidat. Il n'a pas fermé la porte ce matin. On se rappelle qu'hier, il a été nommé leader parlementaire par le chef par intérim des libéraux, M. Pierre Arcan. Donc, Proulx pourrait être possiblement candidat à la direction. Il pourrait incarner cette nouvelle génération.
Oui. T'sais, la métaphore de la porte est très importante pour les journalistes, Bernard. Tu veux dire, il n'a pas fermé la porte, il a entrouvert la porte. Moi, je dirais, il a fermé la porte à double tour. On peut aussi dire, moi, dans le cas de Sébastien Proulx, je pense qu'il est arrivé, il a vu qu'il y avait une porte grande ouverte qui avait peut-être même été défoncée, puis il a dit « Ciel, voilà un courant d'air. Et que vais-je faire? Okay. » Seul l'avenir
c'est
le dira.
C'est une très belle image.
C'était à peu près la... Je suis en train de faire du jazz, Bernard. J'improvise une nouvelle métaphore de la porte et j'espère qu'elle fera jurisprudence parce que je pense qu'elle s'applique bien à Sébastien Proulx. S'il y a quelqu'un qui croit qu'il n'est pas intéressé par la course à la direction, je lui rappellerai que la légalisation du cannabis, c'est le 17 octobre, donc pas touche pour encore une semaine.
OK. Mais donc, on parle tout ça pour dire,
oui.
Je veux juste que tu sois
bien
clair.
On ne veut pas qu'il y ait des messages subliminaux, pas clair avec les gens.
En particulier avec moi, j'aime beaucoup ça. Oui. Donc, toi, tu penses que ce matin, il est intéressé.
Oui.
OK, Carl, vas-y.
Mais moi, je pense que le candidat qui est aussi très intéressé, c'est André Fortin, l'ancien ministre des Transports. Enfin, toujours ministre des Transports, là.
Oui, oui, oui.
Député de Pontiac, il est jeune, il fait des appels, puis il y a beaucoup d'organisateurs qui se rangent dans son camp, selon mes sources.
Oh, 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 oh! Ah, ben là, tu vas pas laisser ça là.
Ah, mais c'est des organisateurs libéraux.
Dans
des gens
ça,
qui
en
voient...
Outaouais?
Ben, pas seulement en Outaouais, c'est ça la beauté de la chose. Écoute, depuis qu'il est ministre, André Fortin, il a pas fait de faux pas.
Non.
Il est bon en entrevue.
Oui.
Il est jeune, il est charismatique, il a une jeune famille.
Il a été très bon.
Il est bilingue, donc pour le Parti libéral, c'est important aussi. Alors, c'est un candidat
Est-il assez nationaliste pour reconnecter le Parti libéral avec les francophones? Et là, ça m'amène... à deux choses. D'abord, le constat. Après la défaite hier dans Gaspé et la démission de Philippe Couillard dans Roberval, les libéraux n'ont plus aucun comté à l'est de Saint-Lambert sur la rive sud de Montréal, à part le comté de Jean Talon à Québec. Mais le reste du Québec, là, il n'y a plus un député libéral. Il faut qu'il se reconnecte avec l'électorat francophone, qui leur a fait faux bond. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Alexandre Taillefer, le président de la campagne libérale, qui a dit dans une entrevue à Radio-Canada, le Parti libéral doit retourner à ses racines nationalistes. Paul Journet, en 30 secondes.
En 30 secondes, j'allais faire un commentaire sur André Fortin. Il y en a qui font son dessin puis ils disent « ça ressemble un peu à Robert Bourassa dans le croquis.
»
profil, la jeunesse, tout ça.
Oui, oui.
Sur le nationalisme des libéraux, j'ai lu avec intérêt l'interview d'Alexandre Taillefer, mais je me demande qu'est-ce qu'il entend par nationalisme. Est-ce que c'est protéger davantage le français? J'ai jamais vraiment entendu de position des libéraux à cet égard. Est-ce que c'est en faire plus pour la culture? Ils ont développé une politique culturelle qui a été, somme toute, très bien accueillie. On voit mal qu'est-ce qu'ils pourraient exactement faire de plus.
Est-ce que c'est de bouger sur la laïcité? Ben oui.
La laïcité, c'est... Bon,
Bouchard-Taylor.
Il me reste à peu près 8 secondes au compteur.
Non, mais s'ils allaient sur Bouchard-Taylor, déjà, ce serait un signal.
Mais ça serait un électrochoc pour le parti. Ça va contre la culture du parti à l'interne. Puis moi, ça me surprendrait que les libéraux bouge en ce sens-là. Le dernier élément que je vois pour le nationalisme, moi, j'ai toujours trouvé ça un peu étrange que la laïcité soit le dossier au cœur des revendications nationalistes. T'sais, à la base, c'est censé être quand même un principe universel, mais je comprends que la façon pour les Québécois de le défendre vient d'un certain rapport à la religion, de la culture majoritaire. Donc, il y a un aspect qui peut être lié au nationalisme, mais ça devrait être lié indirectement et non pas être le dossier nationaliste par excellence à la laïcité. Le dernier que je vois, qui habituellement est celui qui vient en premier, pour les revendications nationalistes, c'est avoir plus de pouvoir au Québec. Et là, je me souviens que le gouvernement Charest, qui n'était pas tout à coup un qui n'était pas tout à fait un crypto-séparatiste, réclamait le rapatriement de certains pouvoirs.
La souveraineté culturelle. La souveraineté culturelle.
Il voulait une espèce de bureau québécois du CRTC, des éléments comme ça. Ouais. Est-ce qu'on pourrait revenir vers ça si on s'inspire de Jean Charest? Je pense pas qu'on est en train de...
De virer le souverainiste.
Ouais. Faut quand même prendre avec un grain de sel les recommandations d'Alexandre Taillefer. C'est quand même lui qui a présidé la pire campagne dans toute l'histoire du Parti libéral du Québec, les pires résultats depuis la Confédération. C'est Alexandre Taillefer qui était président de cette campagne-là. Alors, prenons ses commentaires et sa vision avec un petit grain de sel.
C'est vrai, mais il n'est pas le premier à dire que le Parti libéral pourrait renouer avec les racines plus nationalistes, des Ryan, Lapalme et
Le Sage. Les valeurs libérales, tout ça, effectivement.
En effet, Carl, il n'y a peut-être pas eu les commentaires les plus judicieux. C'est ma façon, avec ma politesse habituelle, de qualifier les interventions d'Alexandre Taillefer en début de campagne.
Oui. Oui, effectivement.
Je sais vivre, Bernard.
De plus en plus.
Mais sais-tu laisser vivre?
On s'arrête parce qu'au retour, Carl va nous parler du dernier tour de piste de Michael Lauchaud-Jean.
Lauchaud.
Trêveville PM. Politique.
Sommes-nous prêts à accepter que la démocratie, les droits et les libertés soient réduits à de simples mots que l'on vide de leur sens au nom de la réelle politique?
Ces nombreuses réalisations, autant envers la jeunesse que pour les droits de la personne, ont enrichi notre monde.
Et je veux ici saluer le travail qui a été réalisé par Michaël Jean, à laquelle je rends hommage. La francophonie doit être féministe.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Oh, de retour avec Carl et Paul. Carl, ça ressemble un peu aux paroles qu'on prononce autour d'un cercueil. Hein?
La personne est funéraire avant le temps.
Non, mais la personne est décédée, puis tout d'un coup, on lui découvre toutes sortes de belles qualités.
On lui rend hommage au même moment où on s'apprête à la mettre à la porte, à la jeter dehors. Et dans le cas du Canada, à la poignarder dans le dos, c'est quand même une Canadienne. C'est quand même quelque chose. C'est assez extraordinaire. Ce qui est aussi extraordinaire, on l'a entendu, là, Michaël Jean qui tente de s'accrocher à son poste malgré le fait que le Canada a retiré son appui, malgré le fait que le Québec a aussi laissé tomber Michaël Jean. C'est quelque chose de sans précédent, soit dit en passant.
Mais là, Carl, là. Elle s'est un petit peu auto-torpillée là, avec toutes ces niaiseries. Là.
Mais je suis pas en désaccord, mais il reste que Justin Trudeau faisait campagne pour elle jusqu'à tout récemment, puis bon, François Legault a hésité, mais on parle de la candidature canadienne et québécoise. Est-ce que, à mon avis, c'était la bonne décision à faire? Probablement. Mais dans le cas de Michaël Jean, elle tente de s'accrocher à son poste. Et là, la question qui se pose, c'est « Sommes-nous prêts à voir Michaël Jean perdre son poste? »
La réponse,
indubitablement,
c'est oui.
La réponse pour les gens, c'est oui.
Oui, mais puis je vais te dire, c'est oui. Puis en même temps, c'est un peu triste que l'on réponde oui, parce que quand on sait qui va la remplacer, d'où elle provient, d'un gouvernement qui est loin d'être démocratique, je parle du Rwanda, qui est dirigé par un bonhomme, Paul Kagame, qui est plutôt un autocrate. Qui a peut-être joué un rôle dans les origines du génocide rwandais, là, parce qu'il y a eu des nouvelles révélations là, qui ont vu le jour au cours des derniers jours. Là. L'attentat contre l'ancien président qui a mis le feu aux poudres, c'est pas impossible que Kagame et son groupe aient trempé là-dedans. En tout cas, soit dit en passant, on ajoute au dossier le fait que le Rwanda a décidé que la langue officielle du pays, ce serait pas le français, mais l'anglais. Alors que c'est un pays qui a un long héritage francophone. Alors, quand tu te compares, mettons, j'ai le goût de dire, tu te consoles, sauf que Michaël Jean, qu'est-ce que tu veux? Elle a perdu tout le capital de sympathie qu'on pouvait avoir pour elle. On n'a pas le goût de se battre pour elle.
T'as raison. Il reste Haïti là, qui est dans son camp. Et puis, bon, elle dit qu'elle compte sur l'appui d'une vingtaine de délégations. J'ai des gros doutes. Ceci dit, habituellement, c'est un consensus parmi les pays de la francophonie. Il n'y a pas de vote en tant que tel. Donc, c'est la première fois qu'on a vraiment une course. Qu'est-ce qui va se passer en coulisses?
Tu penses qu'elle va se rendre au vote?
Je sais pas. J'ai des doutes. Mais, tu sais, son avertissement, là, tantôt, là, ce qu'on entendait au niveau de la démocratie, c'est des avertissements très sérieux. Puis, on peut trouver Michaël Jean hautaine. On peut la trouver un peu déconnectée de la réalité. On peut la trouver même dépensière. Mais là, on va mettre à la tête de cette organisation-là, quelqu'un qui vient, comme tu l'expliquais si bien, d'un pays qui est pas un exemple reluisant en matière de droits de la personne.
C'est clair.
Et là, ça m'amène à poser la question, et j'aimerais ça vous entendre là-dessus, messieurs.
Paul, la francophonie,
qu'est-ce que ça donne?
La francophonie, qu'est-ce que ça donne, Paul?
Plein de choses. Mais,
ah oui?
Oui, mais moi, je reviendrai sur Michael Jean. En effet, c'est regrettable qu'on en vienne à donner la présidence de la francophonie à un pays qui est une démocrature. Par contre, Michael Jean ne devrait pas s'en désoler. Elle devrait se regarder dans le miroir parce qu'elle est responsable de ça. À ceux qui disent qu'elle a été poignardée dans le dos du Canada, je répondrais qu'elle a trébuché dans ses couteaux Sterling à 1 500 $. Puis après, il y a eu quelques coups de couteau de gens qui estiment qu'il fallait se débarrasser d'elle pour faire le ménage avec raison à la francophonie. Fait que je pense que le Canada est arrivé puis il a constaté qu'il n'y avait pas déjà pas mal de... Pardonnez-moi pour la scène lugubre, là, mais mettons qu'il ne restait plus beaucoup de vie dans cette candidature-là.
Il ne voulait plus dépenser de capital politique là-dessus.
Exactement. Ce n'est pas parce que le Canada voulait la larguer, c'est qu'elle s'était déjà elle-même décrédibilisée puis elle n'a qu'elle-même à blâmer.
Puis Trudeau, évidemment, sa priorité, ce n'est pas de faire réélire Michael Jean. Trudeau, sa priorité, c'est d'assurer une place au Canada sur le Conseil de sécurité et pour ça, il va avoir besoin de tout son capital auprès des autres chefs d'État. Fait que
de
beaucoup de votes africains. Fait qu'à un moment donné, voilà. Il a dit, j'arrête de cabaler pour Michael Jean. Faut que je me garde des cartouches pour les convaincre de voter pour moi pour le siège au Conseil de sécurité. Mais je veux quand même revenir à la question que pose Carl.
La francophonie.
Ben oui.
Que ça donne.
Ouais. Paul, toi qui as toujours réponse à tout.
Ben, la francophonie, c'est un réseau diplomatique et dans une certaine mesure commercial. Donc, ce que ça va donner, c'est ce que ça peut donner, c'est ce qu'on veut bien en faire.
Oui, mais à partir du moment où tu as les Émirats arabes autour de la table, tu as un paquet de pays
qui posent pas... Est-ce qu'on a laissé trop de gens qui n'avaient pas d'affaires dans la francophonie venir, comme le Vietnam, comme de mémoire la Roumanie, plein d'autres pays, oui. Mais si on
mais
regarde
on fait
ça d'un point de vue québécois...
On peut pas les mettre à porte?
Ben non, c'est difficile de les mettre à porte. Mais quand même, c'est une façon pour la France et le Canada d'avoir des relations diplomatiques avec les pays africains.
C'est pour compétitionner avec le Commonwealth. Ouais.
Oui, puis l'avenir de la langue francophone, ça passe. La langue française, pardonne-moi, mais... pas la langue francophone, maudit.
Ça arrive. Ah,
je viens de dire ça.
Mais, la langue francophone.
C'est en Afrique. Puis souvenons-nous, la francophonie, son ancêtre, c'est une institution qui avait été créée à l'initiative, entre autres, du Québec. C'est une des grandes réussites, peut-être la première réussite au plan des relations internationales par le Québec à la fin des années 60 et c'est quelque chose qu'on devrait soigner.
Ah oui, c'est l'agence.
Oui, l'agence, c'est ça, oui. Exact.
Mais pour en revenir au point là, sur les membres et tout ça, écoute, le sommet est en Arménie et Trudeau est arrivé là puis il est accueilli à l'aéroport, là. Il est accueilli en anglais. Là, tu viens de parler du Rwanda, la présidente vient de là, la langue officielle, ça va être l'anglais. Ben, à un moment donné, c'est parce que, tu sais, l'Arménie, c'est bien beau, là. Charles Aznavour, c'est correct. Mais des francophones en Arménie, il y en a peut-être quoi? Même pas 1% de la population.
Sur la question des pays membres qui ont un vague rapport lointain avec le français, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais il faut comprendre, par contre, avec l'Afrique, c'est un problème distinct. Parce qu'on veut tout à fait avoir un maximum de membres africains, où le français est une langue parlée par beaucoup de gens. Mm-hmm. Mais on le sait, il y a beaucoup de pays en Afrique qui ne sont pas des démocraties et qui parfois le sont, mais qui pourraient basculer vers des régimes autocrates.
Ouais.
Donc ça, pour
ça,
le point de la réelle politique, on peut le comprendre. Ouais. Et puis, on revient à la question diplomatique qui existe depuis toujours, c'est-à-dire si est-ce que tu dois dialoguer avec les régimes qui parfois sont dans une certaine mesure nauséabonds pour avoir une influence sur eux.
Mais il y en a plusieurs régimes nauséabonds, mais l'Organisation internationale de la francophonie prend pas d'action. Écoute, il y a juste un pays suspendu, c'est la Thaïlande. Déjà qu'ils soient membres, c'est quelque chose, mais c'est la Thaïlande qui est suspendue.
Carl Bélanger, je te remercie.
À la prochaine.
Et on se parle demain. Paul Journet, merci à toi aussi.
Merci, Bernard.
On s'arrête. Au retour, on aura... un pilote... expert de l'aviation sur le plus long vol de l'histoire.
Salut, c'est Jeffrey Soubrani. La fin de semaine, on est musique au 98.5. Puis pas n'importe laquelle. Le rock des années 70 à 2000. Puis on a même notre propre DJ à l'émission. Rock en liberté, c'est Hugo Bass avec les meilleurs mix et les plus longs montages en ville.
Rock. What's my age again? Come on!
Samedi, dimanche, 11h, Rock en Liberté, au 98.5.
On écoute maintenant le groupe légendaire Les Concessionnaires.
On offre un beau gros bonnet à nos amis Coupé Berline. Aillons joli sur la Civic jusqu'à la fin du mois.
Quel grand succès en hommage à la Honda Civic au sommet des palmarès.